France Culture, il est 18h, le journal Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les Français semblent partagés au lendemain du discours d'Emmanuel Macron. Les annonces du chef de l'État n'ont pas mis fin à la crise des Gilets jaunes. De nouveaux appels à manifester sont lancés et le débat à l'Assemblée a été enflammé. Déception des associations de victimes de l'amiante. Dans les dossiers de Jussieu et des chantiers navals Normed, la mise en examen de 8 responsables nationaux est définitivement annulée par la Cour de cassation. Il n'y aura pas de renégociation de l'accord de Brexit, répond Angela Merkel à Theresa May. La première ministre britannique rencontre ses homologues européens pour obtenir des assurances supplémentaires au sujet de la frontière irlandaise. Le magazine Time décerne le titre de personnalité de l'année à des journalistes et parmi eux le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie à Istanbul. Si on s'arrête là, on a tout perdu, commente un gilet jaune au péage autoroutier de la Barque à la sortie d'Aix-en-Provence. De nombreux points de blocage persistent au lendemain de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron, avec des perturbations sur le réseau autoroutier et des manifestations sur les ronds-points. Reportage de Martin Bartoletti à Lille.
Le mot d'ordre est simple sur ce rond-point, il faut durcir le mouvement, le tout sans violence, explique Valérie. Cet auxiliaire de vie a retrouvé de la motivation après le discours du chef de l'État.
Il ne faut pas non plus que ça soit trop agressif. Voilà, ce qu'on a vu à Paris ou dans certaines régions, c'est vrai que ça fait flipper un peu. Maintenant, si je vois que ça dégénère, je me sauve. J'ai un boulot aussi, il faut que je suis pas là pour casser, on est là pour montrer qu'on n'est pas d'accord, c'est tout, point.
Yves, lui, envisage des blocages économiques très ciblés.
Nous, dans la région, on compte bloquer Amazon, parce que c'est vrai qu'ils ne payent pas vraiment les impôts en France et tout, c'est plus chez eux et tout. Et après, on compte bloquer, mais tout ce qui est grosse entreprise.
D'autres souhaitent également fédérer et pas besoin de se rendre à Paris. Alexandre Chantry est l'un des co-organisateurs de l'acte 5 prévu à Lille.
On lance un appel à la convergence ce samedi dès 13h30 sur la place République pour que tous les gilets jaunes du Nord-Pas-de-Calais se retrouvent le temps d'un cortège. Ça nous permettra aussi de nous organiser parce qu'il y a plein de gens à travers la région qui agissent en tant que gilets jaunes mais qui ne savent pas vraiment sur quel point aller, sur quel endroit aller. Donc ça permet de créer du lien, ça permet de s'échanger les numéros, ça permet de se transmettre les informations et vraiment faire un gros point tous les samedis où tout le monde se retrouve et où on peut vraiment se structurer.
Samedi dernier, au moins 1500 gilets jaunes s'étaient rendus dans la capitale des Flandres.
La mobilisation semble en revanche marquer le pas dans l'ouest de la France. Les Français semblent très partagés sur la poursuite du mouvement. 54% des Français sondés par Opinionway pour LCI souhaitent désormais que la mobilisation s'arrête. À l'inverse, 54% des personnes interrogées par Odo pour France Info et Le Figaro soutiennent la poursuite des actions des Gilets jaunes. Le chef du gouvernement s'emploie maintenant à préciser et à défendre les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron. Nous voulons aller vite, nous voulons aller fort pour favoriser le travail, pour que le travail paie, assure Édouard Philippe devant les députés. Nous devons continuer à transformer le pays. Mais le Premier ministre a été encore chahuté cet après-midi, Anne Fauquemberg.
Oui, voici un petit florilège de ces interventions offensives. C'est Jean-Charles Grelier, député Les Républicains de la Sarthe, qui ouvre le bal.
N'allez pas croire que les Français oublieront de sitôt le mouvement qui menace de vous emporter et qui a failli emporter la France.
Pour le fond des annonces, il est suivi par Mathilde Panot, députée de la France Insoumise, dans le Val-de-Marne.
Vous ne revalorisez pas le point d'indice des fonctionnaires, gelé depuis si longtemps. Vous ne faites rien pour les précaires et les temps partiels, rien pour les chômeurs, rien non plus pour les jeunes qui se mobilisent aujourd'hui. Honte à vous qui continuez à mépriser le peuple en prétendant l'entendre.
Sur le style présidentiel, la question revient à Olivier Falorni du groupe Liberté et Territoire.
Alors monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, allez-vous réellement passer d'une verticalité brutale à une horizontalité véritable ?
Et toutes ces questions, elles s'adressent à Édouard Philippe directement, qui répond en tentant de passer au-dessus des huées. Il défend la hausse du SMIC et la défiscalisation des heures supplémentaires. Cette mesure symbole du quinquennat Sarkozy, abrogée par François Hollande et qui n'est pas du goût de l'Assemblée nationale.
Il s'agit d'accélérer sa mise en œuvre en enlevant l'ensemble des cotisations sociales qui pèsent sur les heures supplémentaires et en faisant en sorte qu'elles puissent également être défiscalisées, de façon, là encore, à ce que le travail paye.
Puis Édouard Philippe vante les mérites à venir de la grande concertation qui sera organisée au niveau des mairies sur la fiscalité, le pouvoir d'achat notamment, et qui ne se résumera pas, selon lui, à un gadget cosmétique.
Il faut qu'il y ait un débat intense qui portera sur tous ces sujets et qui permettra d'aborder des questions très concrètes. Le président de la République hier en a évoqué une, et je suis sûr qu'elle suscitera un intérêt profond, et peut-être même passionné. la question de la représentation politique.
Une semaine de débat qui ne fait que commencer pour Édouard Philippe. Les trois groupes de gauche viennent de déposer une motion de censure qui promet un nouveau débat musclé dans 48 heures, donc a priori jeudi.
Anne Fauquemberg, Emmanuel Macron reçoit ce soir les 370 députés et sénateurs de la majorité pour faire le point sur ses annonces. Il évoquera aussi avec eux la grande concertation sur tout le territoire qui doit débuter la semaine prochaine. Le président a auparavant reçu les représentants des grandes banques françaises et des entreprises. Il leur a demandé de mettre elles aussi la main à la poche. Il a notamment demandé aux employeurs qu'ils peuvent de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle, exempte d'impôts et de charges. Alors est-ce que l'appel du chef de l'État a été entendu, Thomas Larabie ?
Alors pour ce qui est de la prime de Noël, les syndicats patronaux sont assez pessimistes pour le moment. Selon Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CGPME, le syndicat des petites et moyennes entreprises, peu de petits patrons auront les moyens de mettre la main à la hotte pendant les fêtes. En revanche, ce qui le réjouit grandement, c'est le retour des heures supplémentaires sans charge ni impôt.
Ça va inciter les chefs d'entreprise à faire davantage d'heures supplémentaires à leurs salariés. Il est évident que les heures supplémentaires sont réalisées même sans cette mesure, mais c'est une incitation supplémentaire à aller dans ce sens-là. Et puis c'est aussi un moyen de débloquer du pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Quant à ceux qui disent que ça pourrait se faire au détriment de l'emploi, c'est absolument pas notre avis, pour une raison très simple, c'est que quand vous faites faire, par exemple, 4 heures supplémentaires à un salarié, c'est pas pour ça que vous êtes capable dans le même temps de créer un emploi pérenne. C'est deux choses complètement différentes.
Un argument qui ne vaut que pour les petites structures, selon Christophe Rameau, chercheur à l'Université Paris 1 et membre des économistes atterrés. Pour lui, cette mesure entraînera mécaniquement une baisse des embauches dans les grandes entreprises. De plus, il estime que le recours régulier aux heures supplémentaires peut avoir un effet pervers sur les salaires.
C'est une mesure qui incite les entreprises en fait à pas augmenter les salaires de base. Sur le thème, il y a la mesure sur les heures supplémentaires. Le chef d'entreprise peut dire à ses salariés « vous allez gagner du pouvoir d'achat grâce aux mesures d'heures supplémentaires ».
Un effet pervers qui pourrait également découler d'une autre mesure annoncée hier soir par le président de la République, la hausse de 100 euros de la prime d'activité en lieu et place d'une réelle augmentation du SMIC.
Thomas Larabie, après les mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées par l'exécutif, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, chiffre à 2,5% le déficit public hors bascule du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Avec le CICE, on passe à 3,4%, mais ça n'est pas un chiffre définitif. Nous explique Gérald Darmanin. La Commission européenne indique qu'elle suivra avec attention l'impact de ces mesures pour s'assurer que le déficit public français reste inférieur à 3% du PIB. Elle réexaminera le budget de la France au cours du deuxième trimestre 2019. On ne peut pas vraiment parler de mardi noir, mais la mobilisation lycéenne ne faiblit pas. 450 établissements étaient à nouveau perturbés aujourd'hui, dont 60 totalement bloqués. Le ministère de l'Éducation nationale signale moins de violences et de casses qu'hier. À Paris, des étudiants et des enseignants ont rejoint les lycéens et se sont rendus avec eux près du ministère de l'Éducation nationale. Alexis Morel.
Dans ce cortège qui a sillonné le quartier latin avant d'arriver près du ministère de l'Éducation nationale, des lycéens parisiens, de banlieue, Aulnay, Aubervilliers, des étudiants aussi venus en nombre des assemblées générales de Tolbiac et de Nanterre, et des profs également aux côtés de leurs élèves, quelques enseignants. Après plus d'une semaine de mobilisation, ces jeunes sont toujours autant déterminés, à l'image de Lola. Lola, lycéenne parisienne, est très vexée qu'Emmanuel Macron n'ait pas mentionné les lycéens lors de son allocution télévisée hier soir.
Il a absolument zappé ce sujet et ça c'est vraiment très vexant, on l'a très mal pris et rien que pour ça on continuera à bloquer, à manifester jusqu'à ce qu'il nous entende et jusqu'à ce qu'il parle de l'éducation en fait. Mais j'ai vu ça, il a rien du tout alors qu'il y a énormément de choses à dire. Donc il pourrait au moins, ne serait-ce que pour atténuer les protestations, qu'on puisse aller en cours, qu'on puisse aller en cours tranquillement, dans le sens avec l'esprit tranquille.
Lola, qui, comme l'ensemble du cortège, s'est à plusieurs reprises agenouillée, main sur la tête, en pleine rue, en référence au lycéen de Mantes-la-Jolie, interpellé la semaine dernière.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, accuse l'ultra-gauche et certains députés de la France insoumise de manipuler les jeunes protestataires. Elle qualifie le mouvement d'extrêmement violent. La Cour de cassation déçoit les attentes des victimes de l'amiante. La plus haute juridiction judiciaire a rejeté les pourvois formés par des associations de victimes et par un syndicat qui contestait l'annulation des poursuites contre 8 responsables nationaux dans 2 dossiers emblématiques de l'amiante, celui du campus parisien de Jussieu et celui des chantiers navals Normed de Dunkerque, Florence Turm.
Oui, les chantiers navals Normed de Dunkerque et le campus parisien de Jussieu, ce sont effectivement 2 des dossiers les plus emblématiques de l'affaire de l'amiante en France. Jussieu, où la bataille lancée en 94 a abouti 2 ans plus tard à l'interdiction de l'amiante et à la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes. La bataille judiciaire, elle n'est toujours pas terminée. 22 ans après les premières plaintes au pénal, toujours aucun procès, malgré la mise en examen de 9 responsables publics, industriels, scientifiques et hauts fonctionnaires pour homicides et blessures involontaires. Mais en septembre 2017, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris estime qu'il ne pouvait pas avoir à l'époque une connaissance exacte des dangers, qu'il ne disposait pas d'un pouvoir décisionnaire. Elle annule donc les mises en examen, décision confirmée par la Cour de cassation, déplore Michel Parigot, président du comité anti-amiante Jussieu.
C'est toujours une déception de voir que l'institution judiciaire refuse de traiter une catastrophe sanitaire comme celle de l'amiante, qui fait, rappelons-le, encore à l'heure actuelle, 3000 décès par an. Donc on est devant quelque chose d'important, une catastrophe qui était à l'évidence évitable, dans laquelle il y a des responsabilités qui, là aussi, sont particulièrement manifestes. Donc évidemment, pour les personnes concernées, les victimes, c'est tout à fait inacceptable.
La bataille judiciaire n'est pas complètement terminée pour autant. Les associations de victimes vont déposer un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le temps continue, lui aussi, à jouer contre la tenue d'un procès. Sur les 9 personnes mises en examen, l'une est aujourd'hui décédée. Et selon les autorités sanitaires, l'amiante pourrait causer encore 100 000 morts d'ici à 2025. Les maladies pouvant survenir jusqu'à 40 ans après l'exposition.
Florence Sturm. En mai dernier, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'inquiétait de la faible visibilité des personnes en situation de handicap dans les médias. Alors qu'elles représentent 12% de la société française, elles sont quasiment invisibles à la télévision. On le voit à peine 0,6% de personnes handicapées. Dans l'emploi aussi, elles sont encore très discrètes. Pourtant, grâce aux évolutions technologiques, beaucoup de freins sont tombés. Illustration à Radio France, Didier Morel avec notre collègue non-voyant Hakim Kasmi.
Contrôle échappe, fermeture des menus, bouton démarrer pour l'activer, entre.
Quand on n'a pas l'habitude, cette voie est difficile à suivre. Pour Hakim Kasmi, journaliste à la rédaction de France Culture, c'est son quotidien. Une assistance vocale indispensable à l'exercice de son métier, lui qui est non-voyant depuis la naissance et un des rares à travailler malgré son handicap dans un grand média. Nouveauté aujourd'hui, il n'est plus obligé de se restreindre à son seul poste adapté. Désormais, il peut transformer n'importe quel ordinateur grâce à la mise en réseau de ses logiciels dédiés.
Et avec une simple commande sur le clavier, on pourra l'activer, ce qui fait qu'on pourra recruter aussi bien des CDD, mais aussi les stagiaires, par exemple, les stagiaires en école de journalisme. Lorsqu'ils venaient, quand ils ne voyaient pas, ce n'était pas évident pour eux de pouvoir travailler correctement. Aujourd'hui, ils pourront travailler comme n'importe quel stagiaire en école de journalisme comme eux. Et ça sera aussi valable, par exemple, pour des stagiaires de 3e, par exemple, qui viennent une semaine en observation.
22e étage de la Maison de la Radio, présent les grands médias publics comme privés, France Télévisions, TF1, Énergie. Tout cela pour découvrir ce que Radio France propose pour faciliter le travail de ses 228 employés en situation de handicap, soit 4% des effectifs, pour un objectif de 6% fixé par la loi. Sophie Coudreuse, responsable de la mission handicap, souhaite partager cette nouvelle solution.
Le principe de la solution, et c'est pour ça qu'on fait cette présentation totalement publique aujourd'hui, c'est vraiment le fait d'échanger ce qu'on a mis en place et que chacun n'ait pas à refaire tout ce chemin, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir travailler dans toutes les entreprises.
À l'écran, comme derrière le poste, des progrès restent à réaliser pour tous les autres handicaps, notamment les moins visibles, comme les handicaps psychiques. Le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois plus élevé que la moyenne, 22%. Et c'est bien plus dans l'univers des médias.
Didier Morel. Theresa May est chaque jour dans une position plus fragile. Ce soir, certains élus conservateurs britanniques affirment que les députés Tories ont adressé un nombre suffisant de lettres pour provoquer un vote interne de défiance contre la Première ministre. Ce matin, Theresa May est partie à la rencontre de ses homologues européens pour les implorer de lui donner de nouvelles garanties sur l'accord de Brexit. Mais depuis hier, le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, le répètent, il n'est pas envisageable de renégocier. Theresa May doit les rencontrer néanmoins tous les deux ce soir à Bruxelles. Elle était un peu plus tôt dans la journée aux Pays-Bas, puis en Allemagne. La correspondance à Berlin de Ludovic Piétenu.
Une scène d'arrivée un peu cocasse pour la première ministre britannique à Berlin. La porte de la voiture qui refuse de s'ouvrir, de longues secondes qui paraissent interminables avant que Theresa May ne sorte du véhicule pour saluer Angela Merkel qui l'attend sur le tapis rouge. Les deux dirigeantes se sourient, mais c'est un accueil courtois et à minima. Le porte-parole de la chancelière allemande avait de façon inhabituelle précisé avant l'entretien que cette rencontre avait lieu à la demande de la partie britannique. Aucune déclaration n'était prévue après cette entrevue, mais il n'a pas fallu longtemps avant d'en connaître la teneur. Angela Merkel vient de l'assurer devant son groupe parlementaire, il n'y aura pas de renégociation de l'accord, il n'y a pas de possibilité de changer, dit-elle, confortant ainsi ce que pense l'ensemble des conservateurs allemands au Bundestag, leur président Michael Grosse-Brömmer, pour qui l'accord est équilibré et ne sera pas rouvert. Dans le même esprit, la presse allemande avait des mots très durs ce matin avant l'arrivée de Theresa May. On pouvait lire pêle-mêle « c'est une farce totale, les Britanniques ont fait une terrible erreur de calcul, la Grande-Bretagne va payer très cher son manque de pragmatisme ».
Ludovic Piétenu à Berlin. L'Irlande ne sera pas laissée de côté, assurent les Européens, puisque c'est sur le backstop que l'accord achoppe, le backstop ou filet de sécurité sur la frontière irlandaise. Annabelle Grelier, vous êtes l'envoyée spéciale de France Culture en Irlande du Nord, où les incertitudes actuelles attisent les inquiétudes et les tensions.
Ici, la grande majorité de la population ne comprend plus ce que contient réellement cet accord. Un accord tellement complexe pour éviter une frontière dure qu'il en créerait une nouvelle en mer d'Irlande. Dans une province déjà très polarisée, entre protestants et catholiques, entre unionistes et nationalistes, le débat ne fait qu'attiser les tensions communautaires et beaucoup craignent que la paix retrouvée il y a 20 ans soit menacée. Dans le milieu économique, les inquiétudes montent également parce qu'une frontière en mer d'Irlande couperait l'Irlande du Nord de son marché naturel, la Grande-Bretagne, avec laquelle les échanges commerciaux sont 5 fois plus importants qu'avec l'Europe des 27. Les grandes entreprises irlandaises ne s'y sont pas trompées, la bourse aujourd'hui s'effondre, la livre chute, et depuis 2 ans, depuis le début des négociations, les investissements se sont taris en Irlande du Nord avec ces incertitudes qui n'en finissent pas. Sur le terrain politique, enfin, les positions se crispent. Le DUP, le petit parti protestant ultra-conservateur, met une pression considérable sur le gouvernement de Theresa May en lui demandant de renégocier l'accord. Quand le Sinn Féin, le catholique 5-3-2-0, quand le Sinn Féin, catholique et nationaliste, y voit lui l'opportunité de lancer un référendum sur la réunification de l'île, comme le prévoient les accords du vendredi saint.
Annabelle Grelier à Belfast pour France Culture. Plus d'une centaine de grands reporters et photographes derrière leurs confrères de l'AFP, Sammy Katz, appellent à défendre la réforme européenne du droit d'auteur, car selon eux, les géants d'Internet cherchent actuellement à vider le texte de sa substance. Le député européen Jean-Marie Cavada partage leur inquiétude. Les lobbies sont présents au sein même des institutions, dit-il, dans une charge assez violente. Écoutez Jean-Marie Cavada au micro d'Angélique Bois.
La Commission et le Conseil ne sont pas du tout favorables à payer les extraits courts. Autrement dit, il y a un risque que nous n'ayons pas gain de cause. Et ça, c'est quand même extrêmement grave parce que ça veut dire que la moitié du travail ne sera pas rémunéré.
Ce qui est dénoncé dans cette tribune, c'est la puissance des lobbies qui, sur ce texte-là, sont particulièrement forts. C'est ce qu'ils dénoncent. Est-ce que vous confirmez ?
Je pourrais faire le joli. Les lobbies sont parfois utiles parce que nous avons appris beaucoup de choses par eux dans l'exercice des professions que nous ne connaissons pas bien. Mais ces lobbies-là, actuellement, ont atteint un niveau d'intervention, de morgue et de présence que je n'ai, en 14 ans de mandat, jamais vu au Parlement. Non seulement ça, mais ils sont actuellement, avec la complicité du rapporteur, M. Foss, nous avons vu que les responsables d'un certain nombre de plateformes ou de grands groupes, par exemple YouTube, ont été invités il y a 15 jours à la table du député qui lui-même a demandé, ce rapporteur, que d'autres députés viennent discuter avec la dirigeante de YouTube, alors que nous sommes dans une phase interinstitutionnelle. C'est un scandale absolu et d'ailleurs le Parlement n'a pas de règlement pour empêcher ça et je vais militer pour qu'il en fabrique un.
Le député européen Jean-Marie Cavada. Chaque année, le magazine américain Time désigne la personnalité de l'année, une toujours très attendue et qui fait même l'objet de paris. Et le Time fait fort cette année. Il a décidé de mettre en avant plusieurs journalistes tués ou menacés dans l'exercice de leur profession. On retrouve Grégory Phillips à Washington.
Pour la première fois depuis 1927, depuis que Time désigne là où les personnalités ayant le plus marqué l'année écoulée. L'hebdomadaire met en une personne décédée. Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en octobre dans le consulat de son pays à Istanbul. La CIA est persuadée que c'est Mohamed Ben Salman qui a commandité le meurtre, mais la Maison Blanche n'a jamais officiellement désigné le prince héritier. Pour 2018, Time a donc choisi de mettre en avant ceux que le magazine appelle les gardiens de la vérité, Khashoggi, mais aussi les reporters du Capital Gazette à Annapolis dans le Maryland en juillet dernier. 5 d'entre eux avaient été tués dans leur rédaction par un homme armé. Également en une du Time, les journalistes de Reuters, Wallon et Kiaso E, actuellement détenus en Birmanie, et la Philippine Maria Ressa, ex-chef du bureau de CNN à Manille et directrice d'un site internet. Elle est persécutée par le pouvoir du président Duterte. En ces temps où les fake news pullulent, ce sont donc des journalistes qui sont mis en avant par Time. Dans le classement établi par l'hebdomadaire, Donald Trump arrive à la deuxième place.
Pour demain mercredi, Météo France prévoit des pluies faibles sur l'ouest, de la grisaille tenace sur le nord-est et des averses en Corse. Les températures minimales iront de moins 3 dans le nord à 10 près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 1 à 10 dans la moitié nord, 7 à 14 sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.